VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à Bangui, bienvenue à notre journal. En Guinée, le gouvernement invoque le manque de préparation des forces de sécurité dans sa réponse au rapport de Human Rights Watch qui accuse les autorités d'usage excessif de la force lors des récentes violences qui ont fait au moins 2 morts et 146 blessés à Conakry, chez Rubin Dorsil.
La réponse des autorités guinéennes, reprise par l'agence France-Presse, intervient 5 jours après la publication du rapport. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Damantan Camara, une majorité des forces de sécurité n'a pas un niveau de formation adéquat, ce qui rend plus difficile le maintien de l'ordre.
La lutte en Côte d'Ivoire, début de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale dans le cadre du processus de réconciliation. Le président Alassane Ouattara a personnellement donné le coup d'envoi de cette campagne, Eddie Sango.
Au total, 4 500 personnes doivent bénéficier de cette indemnisation. Mais selon le président du Programme national de cohésion sociale, Mariatou Koné, l'opération concernera dans un premier temps 3 500 ayant droit des personnes décédées durant les violences qui ont suivi l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Un chèque de 1 500 euros sera remis à chaque ayant droit à titre symbolique pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés, a précisé M. Koné. La commission à charge prévoit une deuxième phase après la réception de la liste consolidée.
La lutte contre Boko Haram maintenant. Le Cameroun a fermé une partie de sa longue frontière fluviale avec le Nigeria pour stopper de possibles attaques des djihadistes nigériens dans le secteur. Ailleurs dans le pays, il y a eu des expulsions d'étrangers de la zone frontalière du Nigeria et des arrestations de suspects. Plus de précisions avec Jacques Aristide qui se base sur un reportage du correspondant de la Voix de l'Amérique au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka.
La guerre contre Boko Haram ne cesse de s'intensifier dans le sud-ouest du Cameroun. Le gouverneur de la région affirme avoir pris des mesures pour sécuriser les voies d'accès maritime, pour empêcher le groupe nigérian d'utiliser la frontière fluviale longue de 300 km avec le Nigeria pour planifier des attaques. Bernard Okalia Bilai indique que ceux qui importent et exportent des marchandises opèrent pour la plupart dans des zones où les terroristes ont été très actifs.
We have decided that there is no longer traffic.
Nous avons décidé d'interdire tout le transport de nu sur le plan de l'eau. Que ce soit les bateaux conventionnels, que ce soit les pirogues, nous avons prohibé les débarquements et les embarquements en provenance du pays voisin de nuit. Nous avons fermé les criques qui ne soient pas sous contrôle.
Des points de contrôle ont également été mis en place afin de passer à la loupe tous les passagers et les marchandises. D'après le gouvernement camerounais, 80% des marchandises vendues dans le sud-ouest et le nord du pays sont importées du Nigeria. Et ce sont évidemment des mesures qui ne plaisent pas à tout le monde. L'homme d'affaires Mbola Serge est d'avis que la décision d'interdire la libre circulation va paralyser les économies des deux pays et il sera difficile pour les commerçants de gagner leur vie.
Nous croyons que le gouvernement camerounais peut trouver un moyen pour lutter contre Boko Haram pour que vraiment qu'il y ait la liberté et qu'il y ait accès pour continuer à faire des affaires. Étant donné que nous sommes dans l'activité des affaires entre pays voisins et Cameroun, nous ne pouvons pas vraiment supporter si on ferme les frontières. Parce que c'est derrière nos affaires que nous vivons. Nous ne savons pas comment on peut faire avec nos enfants, nos familles. Maintenant qu'on dit qu'on ferme les frontières, nous ne savons pas ce qu'on peut faire à l'heure actuelle.
Un peu plus loin, dans le nord du Cameroun, environ 3000 Nigérians et 200 Tchadiens qui se trouvaient dans des zones frontalières avec le Nigeria ont été expulsés, toujours dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Depuis les attentats meurtriers perpétrés au Cameroun le mois dernier, lesquels ont été attribués aux djihadistes nigérians, des centaines d'individus accusés de collaborer avec Boko Haram ont été arrêtés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Congo-Brazzaville, après le leader d'opposition Pascal Tsatsi Mabiala, premier secrétaire de l'UPADS, et Rigobert Ngoualali, un autre opposant notoire, c'est maintenant René Blanchard-Oba, président du MDS, qui se voit refuser le droit de quitter le pays. Sa réaction au micro de notre correspondant à Brazza, Nguela Ngoussou.
Je suis en ce moment porteur d'un clou de 53 cm au fémur gauche. À cette date, je suis attendu en France par mon médecin pour un contrôle et suite à donner aux soins inhérents. Mon étonnement est donc grand de constater que je suis interdit de quitter le territoire national. Le lien pour moi est très évident. Il établit le rapport avec mes dernières prises de position sur la question du changement de la Constitution du 20 janvier 2002.
Et M. Blanchard Oba, neveu du président Denis Sassou Nguesso, d'ajouter:
je n'ai tué personne. Je suis un citoyen congolais libre. J'ai le droit d'aller me soigner. J'ai le droit de dire non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 sans que cela m'expose à des méthodes que même l'URSS, à son époque de gloire, avait abolies.
Burundi maintenant, l'ONU a contacté le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la communauté d'Afrique de l'Est dans la crise burundaise, et aussi l'Union africaine, pour essayer de juguler le regain de violence dans le pays après l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana, l'ancien chef des services secrets. Vanina Maestrachi, porte-parole associée du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon à New York.
Le secrétaire général s'est entretenu par téléphone avec à la fois le président Museveni et la présidente de la commission de l'Union africaine, Madame Dlamini Zuma. Il a condamné de nouveau, de manière très ferme, l'assassinat ce week-end du général Adolphe Nshimirimana et aussi exprimé son inquiétude par rapport aux implications de cet acte d'un point de vue sécuritaire au Burundi. Il a aussi exprimé son plein soutien aux efforts de médiation du président Museveni en vue d'avoir un dialogue politique inclusif dans le pays, comme l'a recommandé la communauté des États de l'Afrique de l'Est.
Vanina Maestrachi, porte-parole associée du secrétaire général de l'ONU à New York. Et puis ici à Washington, c'est aujourd'hui le troisième jour du sommet Yali, le sommet des jeunes leaders africains, ouvert lundi par le président Barack Obama. 500 jeunes leaders venus d'Afrique sont actuellement dans la capitale fédérale américaine pour y assister. Certains d'entre eux ont participé à une émission interactive de VOA Afrique. On les écoute.
Moussa Wetter-Ousse-Point-Franck, je représente le Bénin et j'étais placé à l'université de Delaware dans la catégorie civic leadership. À Delaware, nous avons vu des gens très aimables et très prêts à servir et nous avons eu des professeurs qui ont compris pour la plupart que nous ne sommes pas là pour apprendre de la théorie mais pour faire de la pratique. Nous avons été entretenus sur les pratiques de gouvernance, sur les pratiques de la défense des droits des personnes vulnérables. Nous avons été entretenus sur comment une idée devient une loi. Nous avons eu de très belles expériences.
Je suis Yousra Abderrahim Ndiaye, je représente le Tchad dans ce programme et j'étais à l'université de Virginie, au plus exactement le Presidential Precinct. Je l'ai trouvée très très enrichissante parce que nous revenons en fait renforcés à tous les niveaux humainement. Nous sommes renforcés au niveau de nos capacités professionnelles par rapport à notre engagement, renforcés plus que jamais et surtout on prend notre engagement en fait pour l'Afrique avec beaucoup plus de solennité.
Je m'appelle Samba Musinga Virgile Rivé, je suis du Congo-Brazzaville. J'ai été placé sous l'administration publique, public management, à l'Université Commonwealth de la Virginie. L'expérience a été très, très enrichissante. J'ai particulièrement noté qu'il y avait une parfaite symbiose entre les cours académiques, les sessions pratiques et les activités communautaires. Dans mon pays, je suis juge. Je travaille au tribunal de grande instance de Dolisi. Nous n'avons pas seulement étudié le système criminel américain, nous avons eu le bonheur de renforcer nos connaissances dans le domaine du leadership, c'est ce qui est très important, parce que du système francophone duquel je viens, il y a des aspects sur lesquels on n'insiste pas beaucoup.
Je m'appelle Mireille Kayeye et je suis burundaise. J'étais placée sous le civic leadership à l'Université de Virginie, Presidential Precinct. C'était une expérience très bénéfique. J'étais ravie d'abord de rencontrer les autres jeunes Africains qui sont leaders dans leur pays et de savoir les différents problèmes qu'ils rencontrent et la façon dont ils les gèrent. Ici, à l'Université de Virginie où j'étais, à travers les cours, le programme académique, mais aussi au niveau personnel, j'ai dû comprendre qu'en fait, en Afrique, on a des problèmes qui sont similaires. L'idée ici, c'est de trouver les forces de chacun, de travailler en collaboration et de venir avec des solutions qui peuvent nous aider à nous-mêmes, qui sont différentes des États-Unis, quoi.
Mireille Kayeye, une participante burundaise au sommet Yali à Washington consacré aux jeunes leaders africains. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.